Effectivement, dès Nécrologue, il a été un peu décrié par le régime. On lui a reproché, voilà, de faire une musique bourgeoise, décadente, etc. Alors que à l'Ouest, il rencontrait un succès, un premier succès avec des pièces comme ça. C'est assez marrant d'ailleurs de voir qu'il a été conspué dans son pays d'origine parce qu'on lui disait qu'il faisait une musique décadente et qu'après, quand il est revenu à la tonalité à partir de 76, c'est à l'Ouest où il a eu des problèmes, où toute l'avant-garde de la musique occidentale lui a craché dessus en lui disant que c'était de la musique néoclassique, etc. Mais effectivement, de 60 à 68, il compose selon tous les canons de l'avant-garde en vigueur, c'est-à-dire sérialisme. Il essaye le collage aussi beaucoup. Il était aussi un peu passé par une phase néoclassique. Il est assez proche en ça de Schnittke, le compositeur russe, dont il est de toute façon très proche, je trouve, dans son cheminement. Et en 68, donc, il y a le Credo, le fameux Credo. Donc c'est un gros, gros choc, déjà parce que la partition, elle est très, très chaotique, très violente. Et surtout parce qu'il met en musique un texte religieux. Donc ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est à partir de ce moment-là qu'il a eu de sérieux problèmes avec le régime de son pays. Problèmes qui ont conduit en 80 à son expatriation et au fait qu'il est passé à l'Ouest avec toute sa famille. Le Credo, c'est un point d'aboutissement. Il le dit lui-même, c'est vraiment un point de non-retour. C'est-à-dire qu'à partir de là, il s'est rendu compte qu'en fait, il était allé au bout de son travail sur le langage dodécaphonique. Il n'arrivait plus à composer avec ça, il avait besoin d'autre chose. Il sentait une espèce de nécessité, il avait besoin de trouver un autre langage pour continuer à s'exprimer. Donc il a complètement arrêté de composer pendant 8 ans, ce qui est fou. Enfin, il a composé 2 partitions, dont la symphonie numéro 3, mais sinon plus aucune pièce pendant 8 ans. Et il s'est voué donc à l'étude de la musique médiévale, de la musique de l'école de Notre-Dame, de la polyphonie française, du chant grégorien. Et c'est de ça qui est ressorti son fameux style Tintinnabuli en 1976. Mais je lisais justement un texte dans lequel il disait que le Credo, c'était un peu emblématique parce que c'est une partition qui est pleine de citations de Bach et c'est une partition dodécaphonique. Et c'est comme si les deux tendances, la musique de Bach d'une part et la musique dodécaphonique étaient en lutte au sein d'une même partition. Et à la fin, c'est la musique de Bach qui gagne. Donc en fait, Credo, c'est un peu une espèce de profession de foi. D'ailleurs, c'est la traduction du mot Credo. Une espèce de partition emblématique parce qu'elle symbolise, je pense, vraiment les conflits qui étaient en lutte à l'intérieur de lui-même à cette époque-là. Pourquoi Tintinnabuli? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de silence dans cette musique? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de résonance, que ça résonne comme les cloches, par exemple? J'en suis pas sûr. C'est un style, en tout cas, qui procède de l'intrication entre deux voix, une voix mélodique. Parce que pendant ces 8 ans en fait, de silence, il a passé son temps à écrire des lignes mélodiques. En fait, il écoutait du chant grégorien, il écoutait des chants d'oiseaux, il regardait des paysages et il notait des mélodies. Mais des mélodies monodiques, sans accompagnement, sans polyphonie. Donc il y a une ligne mélodique et il y a une ligne qu'il appelle la ligne Tintinnabuli, qui est toujours composée d'un accord de 3 sons, un accord parfait majeur ou mineur. Toutes les partitions d'Arvo Pärt, elles procèdent de l'intrication de ces deux lignes qui sont liées par de très complexes liens. Enfin, chaque note de chaque ligne est interdépendante de l'autre. C'est assez, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est le principe de base, c'est ça. Arvo Pärt lui-même dit que c'est un peu comme le mari et la femme en fait, qui sont liés dans une espèce de fusion en fait. N'en déplaise à ses multiples détracteurs, c'est pas un compositeur rétrograde, c'est pas un néoclassique, c'est pas un compositeur qui compose à la manière de l'école de Notre-Dame. C'est un compositeur qui s'est profondément immergé de toute cette musique, donc de cette musique de l'ère pré-baroque, et qui en a fait une musique qui pourrait exister qu'au XXIe siècle en fait. Donc c'est pas du tout une musique à la manière d'eux, même si sa consonance explique peut-être une partie de son succès. Il a essayé surtout de comprendre l'essence en fait de cette musique, l'esprit de cette musique, et de le transcrire d'une manière radicalement nouvelle en fait. Je ne sais pas si c'est paradoxal, je pense que quand même le fait de revenir à une époque où la musique elle signifiait quelque chose de très très important, quelque chose qui s'est peut-être perdu dans nos sociétés, quelque chose qui a à voir avec une forme de spiritualité, qu'elle s'exprime à travers la religion ou non. Je pense que c'est peut-être aussi ce qui fait l'écho de cette musique. Je pense que, enfin, c'est ce que dit Pärt aussi. Il dit quand on l'interroge sur le succès de cette musique, il dit peut-être qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont à la recherche de quelque chose qu'on ne le croit, et que quand ils écoutent ma musique, ils ressentent les mêmes aspirations, les mêmes recherches, les mêmes questionnements. Et je pense que c'est des choses assez immémoriales en fait. C'est pas si paradoxal que ça. C'est peut-être notre époque à nous qui est paradoxale, au sens où elle, peut-être qu'elle rejette trop ces questionnements-là dans l'ombre. Je l'ai rencontré effectivement quand on a corrigé les épreuves du livre. Donc je suis allé le voir en Estonie, à Tallinn, et puis à Laulasma, la petite ville où existe le Arvo Pärt International Center, un gros centre de recherche voué à l'étude de sa musique, où il habite dans une petite maison en bois au milieu de la forêt, comme un vrai ermite, enfin presque, c'est pas du tout caricatural, hein, parce qu'il faut, c'est quelque chose qui est important de dire, et elle le dit aussi Nora Pärt dans le livre, c'est un personnage qu'on peut très facilement caricaturer, et quand ils sont arrivés en Occident, c'est ce qu'elle disait, Arvo Pärt c'était du pain béni pour les médias, parce qu'il était un peu mystique, il ressemblait à un vieux moine avec sa grande barbe, il est composé une musique un petit peu proche de la musique médiévale, donc c'est très facile de faire des raccourcis, et c'est très facile de le caricaturer, et... C'est pas un ermite du tout, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui s'embarrasse pas de choses superflues, comme plein d'autres gens. Je pense à Vladimir Nabokov dans un autre style, par exemple, avant lui. C'est quelqu'un qui est très drôle, par exemple, qui passe son temps à faire des blagues, qui est très, très affable. Donc voilà, on est à milieu de l'austérité, de l'espèce de sérieux excessif qu'on peut prêter à sa musique et à son personnage.